Bien, bonjour à toutes et à tous. Bienvenue pour ce nouvel épisode d'Innovation and Prospective Talk. Rentrée oblige, nous allons revenir sur l'impact de l'intelligence artificielle sur l'enseignement, sur les enseignants, avec un épisode spécial rentrée scolaire. Bonjour Lionel.
Bonjour Mathieu, bonjour tout le monde. C'est vrai que ça fait longtemps, mais bon, les vacances sont passées par là. On revient tout bronzé et détendu.
Alors, bronzé un peu moins pour moi que pour toi, nous n'avions pas les mêmes destinations au niveau du globe terrestre. Il n'en demeure pas moins que cette actualité de rentrée est intense. Et un des sujets sur lequel nous souhaitions rebondir est un article qui a été publié par EdSurge en juin 2025 et republié il y a quelques semaines et qui décrit comment notamment les enseignants américains utilisent l'IA. C'est dit qu'on allait rebondir face aux annonces de cette fin de mois d'août d'Elisabeth Borne.
Exactement, c'est un article qui est très intéressant parce qu'il s'appuie sur une enquête de Gallup, sur une cohorte d'enseignants assez considérable puisqu'on dépasse les 2000 enseignants et qui quantifie vraiment de façon très précise. Alors encore une fois, hein, on va parler de nous parce qu'on est aussi dans l'enseignement, de la transposition que l'on peut en faire et de ce que cela implique pour nous en termes d'éclairage. Mais ils arrivent à des chiffres extraordinaires, c'est-à-dire que un enseignant qui utilise régulièrement l'IA pour l'assister dans la préparation, dans l'élaboration, dans la personnalisation de ses cours, dans les liaisons qu'il peut avoir, notamment avec les relations avec les étudiants et leurs familles, etc. On ne parle pas que de l'enseignement supérieur, bien sûr, peut se quantifier à quasiment 6 heures de gain par semaine.
C'est énorme.
Ça veut dire 220 heures par an. C'est l'équivalent de 6 semaines. Et donc, évidemment, qu'est-ce qu'on fait de ces 6 semaines? Et ça, c'est un peu la question qu'on va essayer de se poser aujourd'hui, parce que finalement, une fois qu'on a quantifié, on peut se dire, bah finalement, comment on va utiliser ces 6 semaines? Est-ce qu'on en profite pour partir en vacances? On peut peut-être augmenter. Tu sais, on parle de travailler plus, de supprimer des jours fériés en France. Peut-être qu'on pourrait dire, utiliser l'IA et puis tout va bien.
Oui, alors c'est justement la question que j'allais te poser, parce que moi qui interviens de temps en temps, de manière assez éphémère dans des écoles et notamment sur les sujets innovation, mais toi qui es au contact direct, régulier des écoles et notamment dans cette organisation pédagogique, au contact de plein de profs, où est-ce que tu vois que se cachent finalement ces réservoirs de temps, ces gains de temps concrets qu'on pourrait peut-être fiabiliser d'une autre manière?
Alors, moi, je commencerai par dire une chose. Alors, bon, après, on peut le reprendre en titre, mais on ne gagne pas du temps pour gagner du temps. En fait, on va essayer de racheter du temps pédagogique. Et ça, c'est déjà une première partie de se dire, voilà le mindset, voilà l'état d'esprit et l'axe de pensée. Donc, l'idée majeure, c'est, en gros, un dividende qui va jouer sur des tâches répétitives, sur celles qui ont besoin d'un encadrement humain, mais qui sont finalement assez répétitives. Construire, par exemple, une variante de cours, adapter un cours à un certain type de niveau d'élèves. Dans une classe, il peut y avoir des groupes de niveau, il peut y avoir des élèves qui ont des difficultés, d'autres qui sont plus en avance. Générer un premier barème de notation avec une première trame qui va permettre à l'enseignant de gagner du temps sur un objectif à évaluer. Et puis, dans toutes les relations qu'il y a interpersonnelles, notamment les relations un peu plus factuelles entre l'enseignant, les services pédagogiques et les familles, on peut évidemment avoir des outils que l'on utilise potentiellement déjà là-dessus. Et sur ces différents points, ce qui est intéressant, c'est que dans l'étude Gallup, ils ont donné des chiffres. Ils ont dit, 37% des enseignants qu'ils ont interrogés, donc vous en avez parlé quoi, un peu plus de 2000 enseignants, 37% utilisent l'IA au moins mensuellement pour se préparer, 33% pour prédire des activités, 28 pour adapter leur support de cours, 25 pour les assister dans l'évaluation. Et donc, évidemment, tout ça, c'est ce qui donne ces fameuses 6 heures gagnées de façon hebdomadaire que l'on pourrait projeter de 220 heures par an. Donc, ça, ce qui est évident, c'est que pour fiabiliser ce gain, les méthodes, côté direction, ça va être évidemment de cartographier les différentes tâches et de cibler les gains immédiats par cycle, c'est-à-dire préparer, différencier, rétroagir. Et sur le plan technique, ça va être aussi de normaliser les prompts, avoir des modèles, des consignes, en imposant des garde-fous, parce qu'encore une fois, on est dans un univers qui est sensible. Certains interlocuteurs, élèves et étudiants, sont mineurs, donc les données personnelles doivent être très encadrées, et leur exploitation également. Donc on voit bien que là, il y a un cadre et un encadrement de cet usage qui doit être fait. Mais en tout cas, ce gain de temps, il s'opère sur les grands axes que je t'ai énoncés. Moi, ce que je voudrais savoir, c'est toi qui es plus dans le côté industriel, comment on pourrait traduire toutes ces heures, à ton avis, comment on pourrait traduire toutes ces heures en retour sur investissement, voire en décision d'investissement pour les groupes scolaires, pour les groupes d'enseignement, soit professionnels, soit universitaires.
C'est là que c'est intéressant, parce que quand on parle de ROI, et on pue sur de la matière grise, c'est-à-dire comment est-ce qu'on arrive à valoriser ce temps d'une production forte, en tout cas de personnes qui sont censées être les experts des sujets qu'ils portent. En fait, déjà, le retour sur investissement, on a un grand mythe dessus de vouloir mettre du ROI partout, mais en fait, il existe uniquement si on est capable de le mesurer, et surtout si on est capable de le réinvestir. Sinon, c'est juste on identifie la valeur qui a été créée. Et si on veut identifier le retour sur un investissement, par défaut, il faut le réinvestir. Donc, ça veut dire que faut réinvestir les heures dont tu viens de parler dans quelque chose qui soit actionnable pour l'école, tout du moins quand je parle de l'école, je parle de l'élève, etc. Ou pour l'enseignant lui-même, pour continuer à renforcer ses connaissances et optimiser plein de choses. Donc, si tu estimes, dans ce que tu as dit à peu près, à 220 heures par an, le nombre d'heures rendues par enseignant, nécessairement, je dirais que c'est la valorisation de ces heures sur un cours rechargé, on parle donc du salaire à la fois puis des charges bien sûr, c'est non pas pour économiser des postes, bien que dans une forme de privatisation de l'enseignement supérieur, on soit souvent tenté d'optimiser, de rationaliser ces temps pédagogiques, mais plutôt pour racheter ce temps. Et racheter ce temps surtout au bénéfice de l'enseignement et au bénéfice de l'élève ou de l'apprenant. On peut parler de formation à tous les niveaux. Hein. Et notamment pour avoir des feedbacks qui soient beaucoup plus construits, une différenciation peut-être de l'innovation pédagogique que l'on va pouvoir mettre dans les parcours, leur personnalisation, mais également peut-être du travail sur de nouvelles méthodologies qui vont s'intéresser aux neurosciences, qui vont s'intéresser à la créativité péda et qui vont permettre finalement de développer peut-être une innovation pédagogique plus forte. C'est mon dada, c'est plus facile d'en parler. Et puis ensuite, bien sûr, le co-enseignement, qui est aussi un sujet fort sur lequel il y a énormément de choses à pouvoir mutualiser, peut-être associer deux professeurs sur des thématiques complémentaires qui pourraient co-construire ensemble un cours. Donc, lier ce temps finalement à des indicateurs de résultats qui pourraient être l'engagement des élèves, le taux de devoirs rendus, l'évolution des notes avec une complexité plus forte des travaux, une progression à la fois pour nos jeunes étudiants dans la lecture, la rapidité de lecture, et puis peut-être optimiser aussi, grâce à ça, le feedback aux familles pour permettre ce lien entre l'enseignement, la famille et l'apprenant, et faire en sorte, alors à différents niveaux d'âge bien sûr, hein, quand on a 30 piges et qu'on se refait une formation, on va pas contacter papa, maman. Mais dans les faits, en fait, c'est remettre un écosystème autour de l'apprenant, parce que donc ça peut être l'entreprise, hein, si c'est pas les parents, mais parce que justement, on a ce temps alloué pour ça. Et donc, c'est vraiment ces éléments. D'ailleurs, l'étude que tu soulignes hein, sur Gallup démontre que les enseignants consacrent principalement le temps supplémentaire à fournir des commentaires constructifs, personnalisés, selon les leçons, et puis à communiquer à ses parents. On est capable, grâce à ça, de réintégrer ce temps dans le temps de travail et éviter, bien sûr, tous les effets induits que peuvent avoir l'enseignement entre celui qui enseigne et puis Dieu sait qu'à la fin d'une journée, t'es rincé parce que tu parles, tu dois... Et puis à l'heure des réseaux sociaux qui plus est, il y a beaucoup de distractions visuelles qui sont fortes. Voilà, donc c'est tous ces sujets-là qui sont intéressants et qui permettent de se dire qu'il peut y avoir un ROI si on mesure et surtout qu'on réinvestit ce temps dans le temps pédagogique.
En tout cas, cette étude, ce qu'elle dit, Mathieu, c'est que déjà, c'est peut-être peu, mais 19% des écoles aux États-Unis ont déjà mis en place une politique d'intelligence artificielle formelle.
Bien sûr.
Donc ça, c'est évident que ces établissements permettent, grâce à cette politique, d'obtenir davantage de temps gagné. Et évidemment, ces politiques encadrent la vie privée des étudiants, les mineurs pour certains, etc. Donc ça, c'est intéressant de voir que on est au tout début. Hein, on est au tout début l'utilisation de ces outils, c'est sûr.
C'est-à-dire que la plupart du temps, en plus, ce sont des outils mal utilisés. Hein, si tu prends 100% des personnes qui utilisent ChatGPT, je pense que 10% savent correctement, véritablement faire un prompt structuré qui donne des résultats qui soient prégnants. Moi, la question que j'aimerais te poser, parce que ça, c'est une question aussi que je pense qui est importante, c'est comment tu définis ce garde-fou, comment tu crées. Ou quel serait toi par rapport à notamment à l'école pour laquelle tu travailles, comment tu construirais une politique autour de l'IA? Quels sont les grands facteurs et les grands accélérateurs que tu mettrais dedans?
Alors déjà, il faut se dire que une politique d'IA ne doit pas être un frein, mais doit être un accélérateur, un accompagnateur. C'est l'essentiel. Si l'IA, enfin pas l'IA, si la politique d'un établissement vis-à-vis de l'IA est simplement de poser des freins, on dissuade, quoi qu'il arrive, les enseignants, voire les étudiants, d'aller dans ce sens-là. Et ça a été un peu la première réaction dès la fin 2022, début 2023, quand ChatGPT est arrivé. Tout le monde voulait interdire l'usage de l'IA, etc., etc. Et puis on se rend compte que il a fallu que l'on change nos méthodes d'évaluation, etc., parce que de toute façon, l'IA est là. Et hors incident majeur, c'est-à-dire plus d'électricité pour fournir la substantifique alimentation au data center, elle est encore là pour un moment. Sous cette forme-là ou sous des formes qui évolueront probablement. Donc, pour moi, une politique d'IA, elle s'inscrit sur plusieurs points. D'abord, on définit les périmètres d'usage en fonction des tâches. Préparation, différenciation, commentaire, feedback, etc. Deuxième point, les données. On interdit d'entrer des informations identifiantes d'élèves dans des LLM publics. Usage préférentiel de version entreprise avec clause de non-apprentissage des LLM sur les données qui leur ont été soumises. Troisième point, la transparence. Les productions assistées par l'IA doivent être relues et signées par les enseignants qui s'engagent sur la véracité de ce qui a été délivré par l'outil informatique. Une transparence aussi vis-à-vis des familles. On explique la finalité et les bénéfices. Parce que les familles, elles peuvent très bien se dire, si c'était l'IA qui donne un cours, pourquoi je paye votre école?
Exactement, donc tu as une complémentarité enseignant. Par contre, je rebondis sur un des points là que tu viens de souligner. Quand on parle de la donnée, la difficulté qu'on peut avoir, c'est oui, on va se dire, ça, faut pas que ce soit partagé, mais je dirais que c'est un peu comme le règlement classique du RGPD aujourd'hui. Mais à un moment ou à un autre, comment est-ce qu'on est sûr que ce que l'on met dedans ou ce que le professeur va mettre puisse être aussi partagé? Une des fonctions des colloques scientifiques ou des colloques entre sachants ou des chercheurs, c'est aussi le partage. Donc, est-ce que ça ne veut pas dire qu'il faut avoir deux niveaux de lecture, celle de tout ce qui est personnel, propre aux étudiants, à leur nom, à leur historique, les données nominatives, soit effectivement complètement fermée, mais que le partage de quelques données propres, au partage des richesses de l'apprentissage, soit peut-être partagé.
En fait, moi, ce que j'ai évalué en termes de restrictions sur l'usage des données, c'est véritablement celle qui se limite à les informations qui sont propres à identifier les étudiants. Donc là, de la même façon que quand on publie une photo avec des étudiants qui figurent dessus, on a des demandes d'autorisation de publication auprès de ces étudiants, même si c'est juste pour parler de l'école, faire des photos de l'environnement étudiantin, les locaux, etc. Donc forcément, c'est par ces données, moi j'entends données vraiment personnel de l'étudiant. Bien évidemment, toute la force d'une politique d'IA sera aussi la collaboration entre les différentes parties prenantes et notamment les différents enseignants et intervenants sur la qualité des prompts et la capacité de ceux-ci de délivrer des informations tangibles et pertinentes. Ensuite, là, l'idée, c'est, on a parlé de données, on a parlé de transparence, on a parlé maintenant aussi de qualité, c'est-à-dire double lecture, critère de non-discrimination, parce qu'on sait très bien que certains modèles d'IA peuvent avoir des tendances à discriminer, et donc avoir une politique sur le type de prompts qui sont inacceptables. Mmh. Alors ça demande tout un travail. C'est pour ça que c'est parfois difficile de le faire à l'échelle d'une école. Il faut arriver à le faire à des échelles beaucoup plus importantes, régionales, académiques ou nationales, éducation nationale. Bien sûr, faut travailler la conformité, hein, rappel des droits d'accès, rectification et contrôle de la divulgation des données sur les dossiers scolaires, etc. On parle encore des données étudiantes. Et puis la sécurité, avec des listes d'outils qui sont approuvées. Vous allez utiliser dans telle situation telle IA. On sait très bien qu'aujourd'hui, les différents outils proposent des abonnements, proposent des contrats d'utilisation, et que ces contrats d'utilisation, ils peuvent être subventionnés par les établissements scolaires. Et donc, on impose dans ce cadre-là à un enseignant d'utiliser ce type d'outil. Et il n'y a pas que les enseignants, il y a aussi les services pédagogiques qui peuvent utiliser ce type d'outil dans un cadre qui est d'outils approuvés, avec des contrats de chiffrement, de sous-traitance qui sont déclarés, de la localisation de données, des journaux d'accès, des plans d'incident. Enfin, on peut tout imaginer pour pouvoir encadrer la chose.
Donc, ce qui est intéressant, c'est que tu as identifié, toi, les six piliers, et il y a déjà une démarche de cadre officiel d'usage de l'IA dans l'éducation qui a notamment été publiée fin juin 2025.
Oui, mais bien sûr, parce que, encore une fois, tous les pays sont soumis à cette même vague. Hein, tu as une maison au bord de la mer monte, c'est la marée haute, tu mets ta petite digue, tu mets ton petit machin. Voilà, c'est pareil. Hein, donc, l'éducation nationale a publié quelques axes. Hein, d'abord que l'utilisation de l'IA est autorisée à condition de respecter le cadre qui est défini dans la publication des circulaires de juin 2025, et donc d'agir dans un souci, bon ça m'a fait un peu sourire, de frugalité numérique, quand on sait que ces requêtes consomment de l'énergie et que quand on a mis le doigt dedans, on a envie d'aller plus loin, et puis on fait travailler la machine tellement elle nous sort. Enfin, d'un autre côté, ça impose aux gens de lire, hein. Parce que les IA produisent des textes à poison. Hein.
On l'a bien vu.
Ça t'impose de dire.
Une question d'étudiant toute simple qui aurait fait une page fait maintenant 42 pages extrêmement structurées. Ce qui laisse à penser
Il y a pas de rush. Donc évidemment, donc frugalité numérique, et puis l'idée c'est de l'utiliser que dans un cadre où elle est une plus-value avérée. Deuxième point, l'accent a été mis sur la protection des données personnelles, toujours dans le cadre de ces directives de juin 2025, avec l'absence de saisie de données sensibles dans des services publics et des recommandations d'outils, d'utiliser des outils libres. Et puis, que tout le personnel doit être formé aux enjeux de l'intelligence artificielle et sensibilisé aux risques, c'est-à-dire les biais, les erreurs, les atteintes à la propriété intellectuelle, l'impact environnemental. Et d'ailleurs, cette semaine, tu me le rappelais juste avant qu'on commence l'enregistrement, Élisabeth Borne, notre ministre de l'Éducation nationale, a fait un certain nombre de propositions.
Combien de temps, on ne sait pas.
Dans
l'actualité, on ne sait pas qui va être là dans deux semaines. Hein.
Donc, Allez, quand vous écouterez peut-être ce dialogue,
elle sera
déjà sur Mars avec Elon Musk. En tout cas, la règle d'or pour les enseignants, c'est que l'IA, c'est égal à un brouillon. L'humain doit rester l'auteur.
Voilà. Oui, parce que tu as raison. Je souligne le fait qu'effectivement, dans une classe, on pourrait se dire d'ailleurs, est-ce que c'est pas trop tard? Est-ce qu'on n'est pas déjà dépassé? En même temps, comment sont acceptées en France les IA génératives à l'heure de l'enseignement? On peut se poser la question même de l'adoption de l'IA en France par les enseignants. Est-ce qu'il n'y a pas une forme de nonchalance vis-à-vis de cette technologie, quoi?
Toi qui es dans l'innovation, puisque finalement ton métier c'est ça au quotidien chez Capgemini, comment d'après toi, parce que c'est toujours la question, dès qu'on réglemente, on nous accuse de freiner l'innovation. Oui. Et dès qu'on déréglemente ou que l'on ne réglemente pas, on dit mais l'innovation est en train de tout casser, casser les équilibres acquis, etc. Uber, les taxis, enfin bon, les exemples sont tellement multiples, celui-ci étant probablement le plus iconique puisqu'il continue à exister depuis maintenant plus de 10 ans. La question que je voudrais te poser, c'est comment on peut déployer ce type d'outil, d'après toi, sans freiner l'innovation l'innovation, notamment dans l'enseignement ou l'innovation même des enseignants.
Bah, alors il y a plusieurs pistes parce que c'est multifactoriel, mais c'est vrai qu'un des premiers effets que je pense qu'il faut qu'on évite, c'est systématiquement le grand classique de la communication que peuvent avoir certains de nos décideurs, c'est de dire je veux le Amazon de l'enseignement, je veux le Netflix du je sais pas quoi. Mais ces organisations qui sont aujourd'hui parmi les exemples les plus flagrants d'une forme de réussite démontrent qu'en fait il faut surtout regarder dans le rétroviseur de la façon dont se sont construites ces organisations. Et donc, pour éviter cet effet un peu grand soir, je veux ci, je veux ça, et je veux tout de suite que ce soit un mastodonte, c'est de revenir plutôt à une pratique par pilote, celle du pas à pas, où on va créer progressivement, en fonction des priorités fonctionnelles dont on peut avoir besoin, une roadmap qui tienne la route. Et donc, ça veut dire, pareillement, on va avancer par vagues. Donc, ces vagues, c'est des cohortes systématiquement de pilotes, avec des niveaux technologiques et d'intégration qui peuvent être variable, parce que là, on parle d'IA, c'est une chose, mais la réalité, c'est que derrière, il n'en demeure pas moins que c'est des problématiques d'intégration, c'est pas que de la plomberie, quoi, c'est qu'il y a, de la vraie structure, il y a de l'infra, il y a forcément des ingés, il y a des gens qui vont rendre ces structures scalables, enfin bon, il y a des vrais sujets de données. Et donc, pour rendre ces 3 heures rendues de temps, il faut quand même que ce soit une utilisation qui soit moins personnelle et plus au niveau académique, tu as souligné, régional ou autre, qui est une vraie volonté globale. Mais il faut accepter, et ça c'est contre-intuitif par rapport au temps des mandats de nos décideurs, il faut accepter à un moment ou à un autre qu'on passe un témoin et un relais sur plusieurs mandats et donc plusieurs années, donc plusieurs temps, notamment peut-être 5, 10 ou 15 ans. Et donc la formation, bien sûr, va être nécessaire, mais tous les éléments d'ordre technique, automatisation des sujets, tout ce qui peut être personnalisation. Aujourd'hui, on a un bac avec un sujet qui soit identique pour tout le monde. Mais quel est peut-être à terme le bac de demain? Est-ce que dans l'innovation qu'on va pouvoir créer, le bac ne pourra pas s'adapter ou se personnaliser ou être complètement sur un niveau objectif et via l'IA décidé comme tel, complètement différent d'une personne à l'autre. C'est-à-dire qu'on a plus un bac, on a 1000 bacs s'il y a 1000 personnes qui le passent, etc. Et donc, c'est tous ces sujets qui sont intéressants. Et puis, bien sûr, c'est tous les problématiques qu'on va avoir d'apprentissage. Donc, l'innovation, pour pas la freiner, je pense qu'il faut avoir des quick wins sur lesquels on se raccroche très vite avec des succès qui démontre des avancées et puis avoir progressivement une évolution de AI by l'académie, etc., mais qui soit une plateforme partagée et puis qu'on arrive peut-être à sortir du pronote et puis c'est tout là. Bon, enfin, il y a un moment ou un autre, c'est peut-être se dire comment les grands éditeurs peuvent aussi à un moment ou un autre contribuer à un effort national qui serait peut-être un peu plus pertinent que celui qu'on nous demande en ce moment, avec des actions qui soient vraiment ciblées, utile et qui dépasse l'intérêt d'un mandat et qui aille beaucoup plus loin dans l'intérêt notamment national qui est celui de l'enseignement et de futures têtes bien pensantes qu'on est en train de constituer. On peut pas associer à la politique ce qui relève de l'enseignement. C'est le futur d'une population. Donc on a besoin que ce soit agnostique en termes de parti pris, plus encore si on parle de technologie, dans la mesure où c'est un vrai levier. Donc pour moi, en fait, il y a bien sûr les achats d'outils dont on va avoir besoin, mais aussi que ça puisse être auditable et que globalement, pour moi, si je dois vraiment avoir un mantra, on ne freine pas l'innovation si on est capable d'avoir des succès qui, empilés les uns dans les autres, amènent à cet effet grand soir où on lance quelque chose. Et donc, c'est ça qui peut être intéressant. D'ailleurs, les données que tu as présentées suggèrent qu'une politique finalement en place, améliore les économies de temps et transforme davantage à la fois en standard de performance pour les pilotes et en capacité de scaler sur des outils plus large échelle. Donc, il y a vraiment besoin d'avoir une gouvernance qui pense, mais surtout une gouvernance qui opère et qu'on soit capable de transposer la pensée en action. Et c'est là souvent que le bât blesse dans la façon dont on pense l'IA et peut-être l'enseignement, c'est qu'on a des gens qui pensent très bien, qui font ça merveilleusement bien, mais en voyant trop loin, on se raccroche pas à des quick wins concrets et tangibles qui demain changent la donne du parent face à la pédagogie de son enfant et au rapprochement à l'étudiant et qui permet pas à l'apprenant en enseignement supérieur de se dire que finalement il a une succession de CM, enfin de cours magistraux, qui auraient pu être faits potentiellement par une IA parce que trop générique, et que ce temps aurait été bien plus bénéfique à un rapport personnalisé avec son enseignant, etc. Donc c'est vraiment ces sujets-là.
Et tous les témoignages vivent ça. Et c'est d'ailleurs tout le challenge de ce temps gagné, parce que c'est vrai qu'on a deux situations, pour faire assez court, hein, on a deux situations. On a la situation, pour nous en France, des établissements jusqu'au bac. Oui. Globalement, les différents enseignants sont des enseignants qui sont dans un établissement à plein temps, et donc le gain de temps peut être directement réallouable, redistribuable au sein même de l'établissement. Et puis on a les établissements d'enseignement supérieur où la plupart du temps les enseignants sont multi-sites, multi-écoles. Ils interviennent dans 2, 3, 4, 5 écoles différentes. Et pour certains, dont tu fais partie, à la base, ils ont leur métier et ils interviennent marginalement dans les écoles. Donc là, c'est vrai qu'il est plus compliqué de réallouer le temps. Par contre, c'est évident que ça fait gagner du temps. Mais quand on se regarde, quand on se retourne sur tout ce qui se passe avant l'obtention du bac, au cœur même de l'administration géante de l'éducation nationale, réallouer 220 heures par an par enseignant qui se compte non pas sur les doigts d'une main, mais au nombre de plusieurs millions.
Totalement.
Je crois qu'on est à 4 millions hein, de personnel dans l'éducation nationale. Enfin, c'est un truc énorme. Hein. À une époque, on parlait que l'éducation nationale en France était la deuxième administration après l'armée russe. Donc, tu vois, dans le monde. Hein.
je ne commenterai pas ce propos. mais par contre, tu soulignes un point qui est clé, c'est que pour moi, dans les établissements, ça permet très certainement l'IA d'avoir un effet un peu anti-burnout, parce que d'un seul coup, on réalloue du temps un peu mieux réparti, puis on est surtout capable d'optimiser des tâches extrêmement répétitives. Et puis en même temps, mettre à jour un cours, quand on est expert de son sujet, le fait de le formaliser sous des supports extrêmement lents, tout ça, l'IA peut le faire. Donc en fait, dans les cas d'usage, ils sont nombreux, mais je pense qu'il faut qu'ils soient prioritaires en fonction de la criticité, de l'intérêt à le faire pour l'enseignant. Si c'est quelque chose qui est rébarbatif, compliqué, ou même facile à faire, mais qui n'a aucun intérêt intellectuel, on laisse la valeur humaine ajoutée là où elle est, et puis on fait faire les supports par une IA. Ça me semble beaucoup plus intéressant. Donc ça, c'est tous ces sujets. Peut-être d'ailleurs, à contre-effet, hein, je crois que c'est Butterfly Academy, hein, si je me trompe pas, dans la Silicon Valley ou aux États-Unis, qui est un écosystème d'école où c'est tableau noir, écrit. Il n'y a pas de connexion avec là. Donc il y a aussi les contre-utilisations potentiellement de l'IA. Peut-être une dernière question, Lionel, puisque le temps file. Il y a beaucoup de choses à dire sur ce sujet. Si tu devais définir les usages qui élèvent la qualité de l'apprentissage sans forcément déresponsabiliser l'enseignant et tu devais définir peut-être les limites pédagogiques à poser clairement, ce serait quoi de ton point de vue d'expert dans notamment l'enseignement au-delà de l'innovation que tu portes naturellement?
Je commencerai par un point, et là, parler il y a quelques secondes de tout ce qui était avant le bac. Et là, évidemment, moi, je me situe après. Donc, on a des situations qui sont différentes. Et on est confronté souvent à une situation, on a envie de pouvoir mettre en face d'un groupe d'étudiants sur un thème particulier. On a envie de pouvoir mettre un vrai professionnel. Quelqu'un qui, au quotidien, est exposé à un certain nombre de cas d'usage qui sont extrêmement valorisants en termes de capacité d'éclairage d'un sujet pour des étudiants qui sont en formation. Et évidemment, demander à un professionnel de venir intervenir quelques heures sur un sujet qu'il maîtrise parfaitement auprès d'étudiants pour souvent des rémunérations qui sont pas terrible, il faut bien l'avouer, ça c'est le petit côté négatif. On se prend des refus très régulièrement, parce que toi comme moi, on a l'habitude de croiser des professionnels dans plein de secteurs de l'innovation, et pour beaucoup d'entre eux, j'adorerais pouvoir les mettre face à nos étudiants pour qu'ils apportent justement cette qualité de vue, cette actualisation de cas d'usage auxquels ils sont confrontés, auxquels ils apportent des réponses. Et donc là, l'arrivée de l'intelligence artificielle peut les aider à minimiser un maximum le temps qui sera nécessaire pour préparer l'intervention qu'ils vont avoir. Parce que souvent, on me dit, mais tu veux que j'intervienne sur un sujet, sur, je sais pas moi, la chaîne d'approvisionnement. C'est mon job, j'en parle tous les jours depuis des années. Très bien, mais il faut que je le formalise. Face aux étudiants, je dois mettre un début, un milieu, une fin des exercices, etc. L'IA va aider ces professionnels, ça c'est sûr, à pouvoir demain construire des interventions, pas des interventions qui font 4-5 mois, hein, mais des interventions qui font quelques dizaines d'heures de cours maximum sur une année, et va leur permettre de faire ça. Et ça, ils vont pouvoir le faire avec plusieurs points. Alors, bien sûr, ça rentre dans le cadre de la présence de l'enseignant. L'heure récupérée, c'est en fait dans l'heure de préparation qu'on le récupère dans ce cadre-là.
Bien sûr.
Ce qui fait que dans l'usage de l'IA, le bon usage, c'est évidemment d'arriver à différencier en demandant au LLM des versions adaptées, soit d'un cours, soit de cas professionnels que l'on va pouvoir soumettre à des étudiants, avec des supports visuels éventuellement qui vont être fabriqués par l'IA. Et tout ça, ça va donner un cours qui est extrêmement plus rapide à préparer. Par contre, celui qui le présente, c'est le professionnel et c'est lui qui connaît tout ce qui se passe en dessous de ce qui est écrit ou de ce qui est visuellement visible sur les slides qui ont été préparés par Gamma ou par je ne sais qui. Enfin, les outils de plateforme de préparation automatisée. Ensuite, tout ce qui est structuration des commentaires. Quand on a, par exemple, une grille d'évaluation, je ne devrais pas forcément le dire très fort, mais on a fait un test l'année dernière avec des étudiants de troisième année. On avait une grille d'évaluation de 25 critères et eux avaient un document à produire de quelques pages parce que c'était un document qu'ils devaient produire dans un temps limité. Donc, ils avaient tout loisir hein, d'aller chercher des informations à droite à gauche, mais le temps était très très limité. Eh bien, on a testé la notation par l'intelligence artificielle. C'est-à-dire que j'ai soumis le devoir des étudiants au LLM, j'ai soumis la grille de notation avec les différents critères de notation, le 0 correspond à tel type de critère, le 1, le 2, le 3, le 4, eh bien, l'intelligence artificielle m'a répondu sur mes 25 critères de notation en me faisant un commentaire sur chaque critère de notation. Aucun professeur à qui j'aurais confié ces documents ne m'aurait répondu aussi précisément. Alors, bien sûr, on a relu derrière, on n'a pas fait un copier-coller. Eh bien, la pertinence du sujet, on leur disait, dans les 25 critères, est-ce qu'il y a tel type de données, est-ce qu'il y a un SWOT qui met en œuvre tel et tel type de paramètres, est-ce qu'il y a, les critères étaient assez précisément définis. Et donc, zéro, il n'y a pas, 4, il y a et c'est bien exploité, etc., etc. Et puis, pour élever aussi la qualité, je dirais, comment on peut simuler des situations, créer des scénarios, créer de nouveaux projets, et donc tout ça, libérer du temps, ça va dans le même sens. C'est-à-dire que je suis un pro ou un enseignant, donc un pro d'une matière, on va dire. Quand je dis professionnel, c'est que je suis salarié et j'enseigne de temps en temps. Quand je suis professionnel d'une matière, je suis enseignant à temps plein d'histoire, de géographie, de culture générale ou de culture économique. Et je vais évidemment m'appuyer sur ces outils pour différencier, structurer, simuler. Et là, je vais avoir un véritable niveau de qualité qui va s'élever sans avoir à passer mes jours et mes nuits. Voilà. Et puis le petit secret que je viens de donner, c'est avis à tous les professeurs. Alors, ça impose un problème. Ça impose une question. C'est que aujourd'hui, on avait beaucoup de plagiats qui ont été transposés par beaucoup d'utilisation d'IA stupidement en copier-coller, comme tu l'as dit, au lieu de répondre en une page, on répond en 40 pages et le prof est obligé de corriger un robot. Donc, la solution à ça, c'est que l'on a souvent demandé aux étudiants, comme l'Éducation nationale le fait dans ses examens bac ou quelques-uns post-bac, l'examen se fait sur papier, sur table, papier, crayon, avec plus ou moins de dispositifs acceptés, calculatrice, dictionnaire unilingue, etc., selon selon les matières. Là, c'est vrai que quand on veut se faire assister par l'IA dans la correction, on est obligé de lui mettre non pas une feuille rédigée à la main où elle aura beaucoup beaucoup de mal à décrypter le langage écrit de l'élève, mais on est obligé de lui soumettre un document écrit sous format électronique. Mais par contre, ce que l'on va toujours faire maintenant, c'est demander, et on le fait maintenant régulièrement depuis plusieurs années dans les études supérieures, à chaque soutenance, à chaque dossier, est associé une soutenance. Et si le dossier a été rédigé en groupe, 2, 3, 4 élèves en fonction des situations, la soutenance se fait toujours individuellement. C'est-à-dire chaque étudiant est là pour montrer au jury ce qu'il a compris, ce qu'il a pu mettre en œuvre et la valeur qu'il a pu apporter à la collaboration avec ses camarades. Donc on voit bien que l'IA peut servir à plein de niveaux, que ce soit de l'élaboration jusqu'à la correction, jusqu'à l'identification même de d'autres IA dans le type de rédaction qu'un dossier peut produire dans le cadre d'une correction plus rapide.
Passionnant tout ça. Moi, effectivement, je serais curieux de voir les commentaires qu'a pu faire l'intelligence artificielle que tu as. Ça, je pense que ça doit être effectivement. Mais quelque part, je te dirais bien, corriger des copies, si l'IA fait mieux qu'un être humain, parce qu'elle est capable d'aller télescoper des informations, de les recroiser, de raisonner et d'offrir un feedback personnalisé, vocal, qui plus est, à l'étudiant. Bon, à l'heure de ce que fait Google, notamment dans les IA vocales, et maintenant carrément les vidéos qu'ils peuvent déployer avec. Désolé, ce podcast est encore fait par des vraies voix avec des vraies personnes, mais à terme, ça changera peut-être, on ne sait pas. Enfin bon, donc finalement, si je conclue, quoi, on est sur des plans d'action qui sont concrets, et ça, c'est quelque chose qui est vachement intéressant. On fera peut-être un épisode spécial sur le sujet de la correction des copies à l'heure de l'IA, ce sera passionnant. On invitera Mickaël, d'ailleurs, qui avait 2-3 sujets peut-être avec Elephant à nous parler. Écoutez, je pense qu'on a quand même dressé le portrait robot de cette rentrée de l'année, non pas politique, mais à l'heure de l'IA et des bénéfices que l'on pouvait en tirer. Semaine prochaine, notre marronnier, l'IFAD Berlin. Donc forcément, on vous fera un grand débrief des tendances que l'on peut extraire de ce plus vieux salon de la tech mondiale, qui a fêté déjà ses 100 ans, donc ou presque, c'était 1929, je crois, si je ne me trompe pas. Donc on n'y est pas très très loin, ça y arrive. On corrigera peut-être la date, on ne sait pas. Ouais, preuve que l'erreur sera peut-être humaine et que ce n'est pas une IA qui est derrière. Voilà. On vous rappelle bien sûr que vous pouvez vous abonner, partager cet épisode. Apple Podcast, Deezer, ou encore Spotify, nous retrouver sur YouTube et surtout partager la bonne parole. On vous souhaite à toutes et à tous une très bonne rentrée. Et puis on se revoit la semaine prochaine pour parler d'IFAD Berlin. Allez, bye bye.
Bye.